Vous écoutez France Culture.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Place de la Toile, le magazine hebdomadaire des cultures numériques. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Au sommaire de cette émission, plongé dans son ordinateur, Thibaut Henton répondra à la question « Comment tuer les rats ?». On ne retrouve pas Thibaut exceptionnellement en toute fin d'émission pour son complément d'enquête, mais ce sera notre stagiaire Colas Zibo qui a préparé cette émission et qui assumera ce complément d'enquête. Le son, ce sera « Ne renie pas ton cœur ». Quant à nos invités du jour, Daniel Foucard, François Bigot et Philippe Gargoff pour parler football et jeux vidéo. On est le 20 juillet 1970. Vinicius de Moraes, le grand musicien brésilien, donne un concert à la Fusa, qui est une salle de musique à Buenos Aires, en compagnie de Toquinho et de Maria Creuza. Et il ouvre son récital par cet hymne de supporters traditionnels au Brésil, Copa do Mundo, car un mois plus tôt, le Brésil de Pelé a remporté sa troisième Coupe du Monde en battant en finale l'Italie. Donc c'est un petit pied de nez, évidemment, à ses hôtes argentins que de chanter cette chanson en ouverture de ce récital, qui eux, évidemment, n'étaient même pas qualifiés pour cette Coupe du Monde. Ils la gagneront 8 ans plus tard. La Coupe du Monde est à nous, contre les Brésiliens, personne ne peut rien, un escadron en or, c'est bon pour la samba, c'est bon pour le ballon. Voilà les paroles prononcées par Vinicius de Moraes. Alors ainsi s'ouvre cette place de la Toile, s'inscrivant dans le week-end que France Culture consacre au football et au Brésil, à quelques jours de l'ouverture du mondial brésilien. Et nous avons choisi dans Place de la Toile de parler de football et de jeux vidéo, parce que les jeux vidéo se sont très tôt intéressés au sport le plus populaire au monde, parce que les jeux vidéo de foot comptent parmi les plus grands succès publics et commerciaux en matière de jeux vidéo, parce que le jeu de foot est le lieu d'une rivalité historique et connue, même par ceux qui ne sont pas des joueurs, entre deux jeux, PES et FIFA, qui sont aussi deux manières d'expérimenter le football, parce qu'aujourd'hui, la principale distraction sans doute des joueurs de foot professionnels quand ils sortent du terrain, c'est de jouer sur console avec leurs propres avatars qui sont présents dans le jeu, ce qui était quand même un truc psychologiquement assez complexe, parce que donc le jeu vidéo doit forcément se répercuter d'une manière ou d'une autre sur les terrains de tout le monde, du monde, et pas seulement sur ceux des professionnels, et parce qu'enfin, il est fascinant que le foot, ce jeu de pied, se loge soudain dans les mains et les doigts qui tiennent la console, magnifique pied de nez si j'ose dire encore une fois, à l'histoire de ce sport. Et nous en parlons ce soir avec trois invités. François Bigot, bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous avez trois rapports directs aux questions qui nous occupent. C'est-à-dire, d'abord, vous êtes professionnellement, vous travaillez dans une institution sportive, dans le domaine juridique. Par ailleurs, vous êtes licencié à la Fédération française de foot en tant que joueur depuis vos 5 ans.
Tout à fait.
Donc vous êtes vétéran maintenant ?
Non, je ne suis pas vétéran. Par contre, je joue le dimanche matin, donc c'est à peu près pareil.
Ah, d'accord. Et puis, vous êtes gamer, donc vous êtes joueur de jeux vidéo, de foot. Et puisque vous managez, vous êtes le manager d'une équipe de foot en ligne, c'est-à-dire d'une équipe de joueurs jeux vidéo. Voilà. Et vous jouez alors en mode club.
Ouais.
Ce qui signifie que vous êtes 11 joueurs, vous êtes genre multijoueur, c'est ça, 11 contre 11.
C'est ça, donc c'est le jeu FIFA qui permet de faire ça, c'est de jouer à 11 joueurs du gardien à l'attaquant contre une équipe de 11 joueurs. Voilà.
D'accord, donc, chacun chez eux.
Chacun chez soi, bien sûr, avec internet, avec un petit casque comme vous portez en ce moment là.
Ouais.
Et donc avec une communication à chaque instant, des tactiques, des techniques mises en place, etc.
Vous êtes manager joueur ?
Je suis manager joueur, effectivement.
Quel poste ?
Moi, je joue attaquant.
Voilà. Et attaquant en pointe ?
Je suis attaquant en pointe et j'ai un jeu plutôt de pivot, un peu à la Zlatan Ibrahimovic.
Ah. Juste pour avoir un modèle comme ça, un peu modeste. Hein. C'est parce que vous êtes grand, ça. Bon, voilà, mais vous nous expliquerez un peu plus en détail ce que ça signifie que de jouer à 11 contre 11 dans un jeu vidéo. C'est quand même quelque chose d'aussi étrange que de jouer avec ton propre avatar. Deuxième invité, Daniel Foucard, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes écrivain, vous êtes déjà venu plusieurs fois à Place de la Toile parce que votre œuvre, toujours à un moment ou un autre, touche, soit dans le travail formel, soit dans la thématique des questions un peu numériques. Vous étiez venu parler de Bill Gates, qui était le personnage d'un de vos textes. Mmh. Puis un jour, la première fois que vous étiez venu, vous étiez défini comme écrivain codeur, ce qui m'avait beaucoup intrigué. Mmh. Mais là, c'est en tant que gamer que vous venez.
Oui.
Parce que vous êtes un grand joueur de jeux vidéo. C'est pas un jure que de dire que vous êtes moins bon au foot, en vrai foot, qu'au jeu vidéo.
C'est même pas sûr. C'est même pas sûr parce qu'il faudrait que je sois très bon au jeu vidéo. Je sais que c'est quand même une drôle de pratique. Hein. Et voilà. Bon, moi, j'ai découvert les jeux vidéo par le babysitting. Hein. C'est-à-dire qu'une fois, un ami à moi qui s'appelle Tom Novembre, qui est acteur et chanteur, m'a demandé de bien garder sa petite une nuit. Et il y avait la console allumée. C'était en 1997. Et j'ai découvert à ce moment-là un jeu vidéo. Je me suis dit, à la fin de la soirée, je veux cette console chez moi. Et à ce moment-là, elle ne m'a plus quitté. Donc, j'ai joué effectivement jour et nuit. Ça ne veut pas dire que je sois forcément très bon. Hein, mais j'ai beaucoup, je me suis guéri depuis un petit peu. Mais à un moment, ça n'allait pas fort. Hein.
Bon, alors, vous expliquerez ce que ça signifie tout ça. Et puis, troisième invité, Philippe Gargoff. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes géographe de formation. Vous êtes spécialiste de la ville numérique. Vous avez fondé un cabinet de conseil en la matière. Et par ailleurs, vous êtes un grand observateur du foot. Puisque vous avez un blog qui s'appelle Foot Totalitaire, sur lequel notamment vous décryptez de manière ultra, ultra technique des tactiques.
Alors ouais, en fait, j'essaye de voir un peu des tendances tactiques qu'on voit émerger et puis d'essayer de créer aussi des analogies avec d'autres secteurs comme le jeu vidéo, mais aussi le go, les échecs, enfin, ce qu'on peut apprendre dans d'autres secteurs sur le football et ce que le football peut nous apprendre sur d'autres univers.
Et vous jouez ?
Très mal.
Ah, très mal.
Au foot et au foot jeu vidéo, qui est un vrai foot d'ailleurs aussi. Je joue très très mal aux deux. Mais pour le foot en jeu vidéo, j'ai tiré un trait sur ma carrière quand j'ai pris un 10-0. Et à partir de là, on n'a plus beaucoup de dignité, donc j'ai continué à jouer en perdant. Mais...
Alors juste pour commencer, est-ce que vous avez un souvenir de votre dernière émotion de joueur, de gamer, hein, je parle ? Un but, une action, une défaite peut-être, je ne sais pas, François Bigot ?
Bah oui, moi c'est le dernier ODC, donc c'est les One Day Cup auquel notre équipe a participé. C'était,
c'est quoi un One Day Cup ?
C'est en fait c'est une compétition qui se déroule sur une soirée.
Ah, okay.
Donc voilà, il y a 10 équipes qui sont inscrites par exemple et on doit jouer tous les quarts d'heure. Voilà.
D'accord.
Et on a gagné cette ODC pour revenir sur le terme. Puis ouais, je me souviens des demi-finales, c'était très très compliqué. On a été aux prolongations, on a marqué sur un but vraiment fouillis que FIFA nous a permis de marquer. Et donc finalement, on a remporté cette victoire alors que tout le monde nous voyait perdant dès les premiers tours.
Et donc, voilà. Comment on célèbre une victoire au foot quand on est chacun chez soi derrière son écran avec son casque ?
Alors, on peut pas quand on a les enfants qui sont au-dessus, on fait pas de bruit. Donc on se lève silencieusement et puis on serre le poing. Et sinon, les autres...
Scène absurde. Ouais.
Mais FIFA, il faut savoir que FIFA nous permet de pouvoir improviser des danses d'après-but. Donc fonction des boutons sur lesquels on appuie, on peut faire des danses. Et donc là, chacun fait sa petite danse.
Devant les autres
Voilà, tout à fait. Voilà.
Ah oui, c'est très bien. Philippe Gargoff, même question, cette dernière émotion.
Ça remonte un peu, mais j'ai tellement perdu de matchs récemment que c'est ma dernière victoire et je jouais contre quelqu'un, un ami, Edouard, qui est bien meilleur que moi, qui me bat à chaque fois sur des scores fleuves. Et là, j'ai réussi à tenir le 0-0, à mettre un vieux but de raccro à la dernière minute. Et du coup, j'ai explosé. Et j'ai dit qu'on arrêtait de jouer après cette partie. Parce que par contre, il ne fallait pas pousser sa chance.
Daniel Foucard, pareil.
Alors moi, ça date d'hier soir. Mon émotion, c'est que j'ai réussi à jouer quand même 3 heures sans pousser de hurlement. Ça a été une immense émotion parce que je me suis calmé, quoi. Parce que d'habitude, pour moi, les jeux vidéo, c'est quand je suis seul, parce que je suis un joueur un peu autiste, je joue même pas en ligne, je joue devant ma machine, donc contre le moteur de la machine. Je le traite en principe de tous les noms, hein, mais vraiment, c'est l'objet que j'ai le plus insulté, moi, dans ma vie, c'est vraiment un moteur de jeux vidéo, c'est même pas une personne, hein, c'est terrible. Donc, en même temps, des cris de joie et des cris de détresse, mais voilà. L'émotion, c'était d'avoir joué calmement pendant 3 heures.
Mais face, encore une fois, à un moteur ou face à quelqu'un ?
Tout à fait, non, un moteur, toujours.
Alors, il faudrait que vous nous expliquiez, on va essayer de faire un travail qui est compliqué, pourrait prendre des heures, mais que vous allez devoir synthétiser, vous allez vous aider les uns les autres pour le faire, qui est de dresser à la fois une sorte de petite histoire, disons, du jeu vidéo de foot, et à la fois, du coup, aboutir à un panorama, quoi. Bon. C'est-à-dire que le jeu vidéo de foot, en gros, FIFA, je crois que le premier FIFA, c'est 1993, hein, le FIFA 1, bon. De 1993 et du FIFA 1 jusqu'au FIFA, je sais pas, 2014 ou 13, je sais pas quel est le dernier. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça a évolué comment ça a évolué à la fois tactiquement qu'est-ce qu'on peut faire ? J'imagine que par exemple, on pouvait pas jouer à 11 contre 11 en 93. Bon voilà, alors déjà il y a le multijoueur, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a changé dans le jeu vidéo de foot ? Alors peut-être François Bigot.
Bah juste, d'une manière générale, c'est vrai que quand FIFA est arrivé, bon, c'était le premier jeu vraiment le plus proche de la simulation. Puis finalement, il a viré un petit peu plus arcade, donc pour expliquer aux éditeurs. Oui. C'est-à-dire qu'on pouvait tirer du milieu de terrain et puis ça pouvait rentrer, par exemple, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mmh. Et puis après, il y a eu l'arrivée d'un jeu japonais, donc Pro Evolution Soccer, qui a concurrencé FIFA, qui a vraiment pris le dessus jusqu'à peu près au FIFA 2008, donc jusqu'en 2008-2009. Ouais. Et là, vraiment, il avait le monopole du marché. C'était le jeu préféré de tous les passionnés de football pour son côté simulation. Et puis, ça a clairement changé après FIFA 2008, qui a fait d'énormes efforts. Ils ont fait d'énormes efforts EA Sports. Et depuis, PES est un peu rame derrière FIFA.
Alors ça, on va accorder un petit moment spécifiquement à la rivalité FIFA-PES, parce que c'est quelque chose de très important dans cette histoire du jeu vidéo. Mais aujourd'hui, le panorama, c'est bon, il y a encore FIFA qui ultra-domine le jeu de simulation, PES peut-être un peu en dessous, Pro Evolution Soccer. Et puis, il y a aussi, on en parlera peut-être un peu avant, mais on avait déjà parlé dans une autre émission consacrée au foot et à la statistique, au sport et à la statistique en général. Il y a aussi un autre pan du jeu qui n'est plus un jeu où on joue au foot, enfin, on simule des actes, mais c'est ce jeu qui s'appelle Football Manager, où on manage des équipes en remuant des données. Ça, on choisit des joueurs, on les achète, etc. C'est ça, Philippe Berger.
C'est en fait, il y a d'un côté la simulation de joueurs, enfin de matchs, et puis la simulation d'entraîneurs, qui a connu Football Manager et un des plus connus aujourd'hui, et même le principal sur le marché. Il y en a eu d'autres par le passé qui étaient moins aboutis. Ce qu'on observe de similaire entre les deux, c'est qu'on est allé vers de la complexification des systèmes de jeu et notamment des données qui sont intégrées à ces systèmes pour les rendre plus réalistes. Et une tension toujours entre, les mots ont été cités, entre l'arcade et la simulation pure et dure. Et en gros, ce qui est...
Expliquez mieux, parce que c'est quoi la tension entre arcade et simulation? Ça veut dire quoi?
L'arcade, on est dans le plaisir, quitte à être dans l'exagéré. Enfin voilà, quand il parlait d'une frappe qui va rentrer alors qu'elle ne pourrait pas rentrer dans la vraie vie. Ouais. Voilà, on va avoir un moteur physique. Donc par exemple, la manière dont la balle va voler quand on la tire, qui va être exagéré, qui ne va pas correspondre à des vraies lois de physique.
On aura des actions de jeu qui ne sont pas du tout comme celles qu'on voit à la télé. Le joueur va partir avec son ballon de son terrain et puis à faire du Maradona à chaque fois.
D'accord. Moi, c'était mon dribble préféré. C'était un tourniquet qui me permettait d'effacer 10 joueurs à peu près. Hein. je ne l'ai jamais revu dans un foot réel. Hein.
Ah oui, d'accord. Mais ça, par exemple, c'est quelque chose qui est de moins en moins possible jeux dits de simulation.
La période actuelle, elle est à avoir plus de réalisme. Mais ça marche par cycle aussi. Hein. Il y a eu un moment où FIFA peut-être est allé trop loin dans l'arcade et a perdu son marché là-dessus parce que PES est arrivé. Mais en même temps, là, FIFA est revenu vers du réalisme. Mais ça n'a peut-être pas duré ou peut-être que ça va durer. Ouais. C'est souvent les joueurs qui définissent un peu le curseur de là où ils veulent mettre le plaisir par rapport au réel, en fait.
Mais là, parce que quand on n'est pas joueur mais spectateur, on a l'impression qu'effectivement, l'idée, c'est de pousser le réalisme jusqu'au bout, puisque les joueurs aujourd'hui dans FIFA, c'est des vrais joueurs. C'est des joueurs qui sont actuellement dans ces clubs-là. Leur visage ressemble, leur manière de fêter les buts. Je regardais tout à l'heure, par exemple, des coups francs de Messi. C'est absolument incroyable. C'est jusqu'à la gestuelle du petit saut qu'il fait juste après le coup franc. Enfin, c'est d'un mimétisme quand même complètement incroyable. Donc, on a l'impression que ça vise totalement ça. Mais en même temps, alors, j'aimerais bien juste qu'on revienne sur la rivalité PES-FIFA. C'était quoi la différence entre ces deux jeux? Pourquoi on jouait à l'un plutôt qu'à l'autre, François Bigot?
Alors moi, à titre personnel, c'est surtout... Nous, c'est le mode de jeu auquel on joue, c'est le jeu en multijoueur. Ouais. FIFA a permis depuis son 2009 de pouvoir jouer à 5 contre 5. Donc chacun un joueur. Donc voilà, il y avait un joueur qui allait jouer tous les joueurs qui n'étaient pas joués par les autres.
D'accord.
Pendant que quatre autres jouaient un attaquant, un défenseur, etc. Ensuite, ça a tellement évolué, tellement été apprécié qu'ils ont offert cette possibilité à 10 joueurs, puis 11, en intégrant le gardien de but, ce que PES n'a jamais fait. Et donc
Parce que là, du coup, on est au summum de la simulation, disons, puisqu'on est un seul joueur.
Voilà, et puis il faut respecter son placement tactique, il faut respecter les consignes du coach, entre guillemets. C'est vraiment, il y a un côté très humain au final dans le virtuel, puisqu'on a une gestion humaine à dire à un joueur, toi tu vas jouer à ce poste-là, alors qu'il préfère jouer à l'attaque, etc. Et donc oui, il y a ce côté à PES qu'on ne pourra jamais retrouver. Bon, ça c'est...
Vous, Daniel Fouet, vous étiez plutôt un joueur de PES dans...
Alors voilà, moi je suis plutôt PES, et dès le début, moi ça s'appelait même ISS Pro, hein, quand j'ai découvert le jeu. Et alors je pense en plus, par rapport à ce que vous dites, c'est que je pense qu'il y a une espèce de plafonnement dans la possibilité de jeu, dans la jouabilité dans le jeu. C'est-à-dire que si vraiment il peut y avoir des différences entre deux jeux, ça va être sur le niveau de détail, par exemple. Ça va être la manière dont on reconnaît bien les joueurs ou que les stades sont bien dessinés, etc. Ouais. Et puis, exactement ce que vous avez dit aussi, c'est des petites options. Mais sinon, pour au niveau de la jouabilité, qui a été quand même la vraie question qu'on s'est tous posée, c'est quel est le jeu qui ressemble le plus à la réalité ? Ouais. Ben finalement, ils se valent l'un et l'autre, je pense, même encore aujourd'hui. Il n'y a pas énormément de différence.
Et pourtant, ça paraît complètement absurde de chercher la représentation de la réalité, alors qu'on a une expérience qui est une expérience digitale, avec le haut du corps, sans bouger. Mais alors, c'est quoi la ressemblance avec la réalité ? C'est le poids du ballon, parce qu'on disait ça à un moment, on disait Pro Evolution Soccer, PES, la force de PES, c'est que quand on frappe un ballon, ça ressemble plus à la manière dont on frappe un ballon dans la réalité. Ce qui est complètement absurde, vous voyez.
Et ce qui était drôle, c'est qu'en plus, PES, pendant longtemps, n'avait pas les licences pour toutes les fédérations, et donc avait des faux noms de joueurs pour beaucoup d'équipes. Et on se rendait compte que finalement, c'est pas grave d'avoir des faux noms de joueurs, c'est pas grave. L'immersion, le joueur l'a créé lui-même parce qu'il est fan de foot et qu'il va reconnaître que Ronaldinho, c'est Ronaldinho ou je sais pas quoi. ou Zidane, voilà, c'est on sait qui c'est.
Ah, il s'appelait Zidane ?
Bah, je sais plus exactement ça, je sais plus les noms. Mais donc c'est intéressant parce qu'on se rend compte que l'immersion, elle dépend pas réellement du cadre, de l'habillage, mais elle tenait beaucoup plus effectivement à des éléments physiques.
Alors c'est quoi, par exemple ? Expliquez-nous pourquoi est-ce que dans PES, on avait l'impression de plus frapper le ballon à l'époque que dans FIFA. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que grosso modo, quand on frappait le ballon, ça ressemblait à du vrai.
D'accord, mais c'est la tautologie.
Exactement, c'est inexplicable.
Il y avait le son, il y avait la manière dont on appuyait sur le bouton. Si on appuyait plus ou moins fort, le ballon partait plus. Il y avait la trajectoire, si on dirigeait son ballon d'une certaine façon. Enfin, il y avait un peu tout ça. Voilà. Le moment auquel on appuyait sur le bouton, il allait complètement changer la trajectoire du ballon, ou même qu'il aille en l'air, devant, etc. C'était...
Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses, toujours dans ces jeux-là, pourtant très 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 élaborés, qui ne marchent pas bien, quoi, où là, ça ne ressemble pas ?
Oui,
ouais, par exemple,
Des longues touches où on peut viser la lucarne de la touche et puis que le gardien est obligé de faire une claquette, bon, des trucs comme ça. Ça,
par exemple, on peut le faire facilement dans le jeu ?
On peut le faire, mais ça arrive jamais. Il n'y a jamais un joueur qui va essayer de marquer de la touche.
D'accord, ça c'est typique. Donc ça, c'est des choses qui sont par l'excès.
Ouais, voilà. Mais c'est, à mon avis, c'est des éléments qui n'ont pas vraiment été étudiés ou alors qui n'ont pas pu être modifiés à temps.
Philippe Gakov, cette même question de qu'est-ce qui ne marche pas ?
Il y a toujours des bugs. Moi, ce que je reproche plus au jeu, c'est que sur des joueurs très importants qui vont servir un peu de mascotte au niveau marketing, des Cristiano Ronaldo, etc., ils vont peut-être être un tout petit peu surévalués. En tout cas, ils vont avoir des statistiques qui seront beaucoup trop performantes et ça les rend parfois injouables. Et un des gros dilemmes de ces jeux, c'est d'essayer de niveler le niveau pour que ça soit agréable, quelle que soit l'équipe avec laquelle on joue, et qu'on ne puisse pas faire... prendre un joueur et dribbler toute l'équipe simplement parce qu'il a des très très bonnes stats en dribble. Mais un des éléments qui a été dit tout à l'heure sur le côté réaliste, c'est lié à est-ce qu'on le verrait à la télé ? Et je trouve qu'il y a un premier rapport qui est assez intéressant entre jeux vidéo et télé. Finalement, ce n'est pas réaliste parce que ça ressemble à ce qu'on ferait sur un vrai terrain, parce qu'on n'aura jamais le niveau d'un Zidane. Sûr. Par contre, on a vu Zidane jouer et on sait à quoi ça ressemble quand Zidane le fait.
C'est qu'on essaye de reproduire des choses vues, mais pas forcément des choses senties, c'est ça ?
Je trouve que voilà, le gap... Le réalisme, il
se
cherche pas
à quelqu'un.
Il se cherche pas spécialement dans sa propre expérience de joueur, mais plutôt dans l'expérience qu'on peut avoir de visuel, au niveau télévisuel, au niveau YouTube.
En fait, on fabrique une sorte de match idéal avec des pantins de joueurs, mais c'est pas forcément exprimé. Enfin, c'est pas forcément une expérience physique, corporelle. C'est plus une expérience de spectateur. C'est ce que vous voulez dire.
Je pense que c'est ça. C'est mon avis personnel. Après, on pourrait le discuter.
Qu'est-ce que vous en diriez, ça, François Bigot ?
Oui, il y a ça. Puis il y a l'aspect, pour moi, il y a l'aspect tactique qui est très important. Dans FIFA, on est obligé de progresser balle en faisant des passes. C'est pas balle au pied. Et ça, quand on joue à 11 contre 11, il faut bien dire tel joueur, place-toi ici à ce moment-là, etc. C'est pas des choses qui s'improvisent. Et ça, on le retrouve aussi dans le vrai foot quand on joue en division de district ou en ligue régionale. Ouais. Enfin, je veux dire, on peut très bien balancer des grands ballons et puis courir après, ça se fait à FIFA. Mais tout comme on peut faire des passes plus près du professionnalisme comme font les joueurs.
Et par exemple, François Bigot, vous êtes manager, donc joueur d'une équipe de foot en ligne. Vous entraînez ?
On s'entraîne, tous les lundis soirs.
Ah, tous les lundis soirs.
Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on met des ateliers en place.
Ah bon,
tous les lundis soirs, quand tout le monde est disponible. Mais on a 17 joueurs, donc vu qu'on peut jouer à 11.
Il y a des remplaçants en plus.
On ne peut pas remplacer en cours de match, mais effectivement, il y a des remplaçants.
Parce qu'être remplaçant chez soi tout seul, c'est quand même un niveau de lose.
Ça, on ne peut pas. Ouais. On ne fait pas. Mais oui, effectivement, donc on met en place des schémas pour essayer de travailler des coups francs, des corners, des possibilités d'agilité de contre-attaque sur le selon la formation, etc. Bon, ça marche pas forcément parce que ouais. on n'a pas, il y a un niveau qui est pas forcément homogène, mais voilà, après tant que l'état d'esprit est là.
Et pourquoi vous êtes l'état d'esprit là?
Non, mais si les joueurs sont. Mais non, mais c'est vrai, c'est très, très
à nous côté de sportif. Avoir l'état d'esprit.
Ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai.
Mais et pourquoi vous êtes le manager, vous?
Bah parce que disons que j'ai pris, enfin c'est moi qui ai créé le club en 2009 et moi c'était l'opportunité de pouvoir, parce que actuellement bon, les jeunes d'aujourd'hui quand il faut aller chercher du boulot, faut partir de sa ville natale et c'était l'occasion de rester en contact avec mes amis d'enfance, avec mes frères, et donc on a créé un jeu qui nous permet de rester en lien toute la semaine si on veut, donc un soir par semaine, et de pouvoir jouer voilà à Nice, à Paris, même j'ai mon frère qui a été à Singapour, enfin voilà, il y a des
il jouait lui c'était le matin, c'était voilà, au boulot, mais c'était pas grave,
non mais il se levait la nuit s'il fallait, mais voilà, il y a c'est cette possibilité de pouvoir jouer à distance,
quoi. Mais moi il y a un problème dans tout ça, c'est comment on fait, comment la machine fait avec l'accident. Parce que ce qui est beau dans le foot, c'est l'accident. C'est-à-dire qu'une frappe, elle est changée, elle n'est jamais la même sur le terrain, parce qu'il y a une mode de terre, parce que le joueur glisse et fait une sorte de super coup franc alors qu'il a glissé. Bon, ça c'est l'accident, disons, physique, mais il y a aussi l'accident mental, psychologique. Enfin, on sait très bien qu'il y a des équipes qui se sont faites ou défaites parce que Bidule couchait avec la femme de machin, etc. Donc Bidule a été évacué. Enfin, on sait qu'il y a des grandes équipe de 1982 qui ont été formées sur ces problèmes de coucherie. Hein. Bon, et donc, non mais, bon, tous ces accidents-là, ils sont pas dans le jeu. Donc, du coup, espèce de réalisme, de toute façon, l'idée du réalisme, elle est complètement. Enfin, elle la chope sur le fait que la machine, il n'y a pas d'accident dans la machine.
Il n'y a pas de coucherie dans PES ni FIFA. Mais oui, effectivement, le jeu, c'est-à-dire qu'il est obligé quand même de rendre une espèce de crédibilité un petit peu à tout ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire un truc exceptionnel. Comme par exemple tout à coup glisser, voilà, perdre la balle ou s'endormir, je sais pas. Effectivement, il peut pas gérer ça. Ça serait plus un jeu. Ce sera à ce moment-là après quelque chose de scénographique.
Alors, du coup, est-ce qu'il n'est pas condamné à répéter des schémas qu'on a l'impression d'avoir vu 40 fois, des frappes qu'on a vues 40 fois, peu variées. Si vous trouvez qu'il est, et c'est pas grave qu'il soit condamné à une
répétition. C'est pas très grave, non. Non, c'est pas très grave. Il y a plein de variables. Hein.
Ah, il y a quand même plein de variables. Ouais. Philippe Bergoff, et puis après.
Surtout, l'accident, il est dans la main du joueur. Il n'est pas dans le jeu, il n'est pas programmé pour être là. Mais si quand il joue à 11, il y a un des joueurs qui flanche parce qu'il a rompu avec sa copine et qu'il n'est pas dans la bonne ambiance. Ou si inversement, il s'est bien entraîné, il a des automatismes qui viennent et il sait que son partenaire sera là quand il va faire telle passe en aveugle.
Ou alors il s'est pété le bras, il ne peut plus utiliser sa console.
C'est pour ça que le sport... le sport de le e-sport, le sport numérique, il a une vraie valeur et il connaît les mêmes problématiques qu'un sportif
mais décalé, disons, pas ce qui apparaît dans le jeu, mais ce qui est autour du jeu, c'est ça.
Mais moi j'ai une anecdote, j'avais un joueur qui aimait bien jouer à l'attaque et puis il avait tendance à, quand il était face au but et qu'il avait plus de gardien, à tirer au-dessus, quoi. Bon bah voilà, ça c'est clairement et c'est clairement des difficultés qu'on peut retrouver dans le foot.
Et vous l'avez soigné comment, vous, manager, vous le peut-être
l'a changé de place.
Ça, vous l'avez mis où?
Non, mais après il s'est adapté, là il joue défenseur maintenant,
est-ce que vous observez, parce que en gros dans le foot normal ce qui se passe c'est qu'on descend en vieillissant, hein, c'est un peu ça, c'est qu'on est jeune, on commence attaquant puis après on descend un petit peu, etc. Est-ce que vous observez ça aussi dans le e-sport, c'est-à-dire qu'on descend en vieillissant, parce qu'on peut terminer à 55 ans à être attaquant de pointe?
Ce que je remarque, une chose est sûre, c'est que plus les jeunes arrivent tôt, plus ils sont forts. Ça, c'est sûr qu'ils ont une capacité d'évolution, de progression.
Ah bon? Même en jeu vidéo.
Ouais, les jeunes ils s'adaptent plus facilement, ça, c'est sûr. Après, si on a toujours été joueur, on restera bon et on n'a pas besoin forcément de changer de poste. Mais par contre, ce qui est très important dans ce mode de jeu, c'est de connaître le foot, d'avoir une vision du foot.
Ah bon?
Si, là, il y a une nette différence entre celui qui joue pour jouer et celui qui joue parce qu'il est passionné par le foot.
Et pourtant, paradoxe, PES, Pro Evolution Soccer, c'est fabriqué par des Japonais, FIFA, fabriqué par des Américains, et eSports, qui sont deux nations, disons, pour le coup, qui ne sont pas du tout des nations de traditionnelles.
Il me semble que eSports, ils ont une boîte en Angleterre.
Ah, bon, d'accord, ça corrigerait mon... Bon, enfin, on va poursuivre la discussion, évidemment, dans quelques minutes, mais tout de suite, Thibaut Henton, qui s'est plongé cette semaine dans son ordinateur pour répondre à une question dont il a le secret, comment tuer les rats?
Comment tuer les rats? Une question qui va gagner en importance dans les prochains jours à cause des employés du métro de Sao Paulo. On croit qu'ils sont en grève illimitée depuis jeudi pour exiger de meilleures conditions de travail, mais en fait, pas du tout. Ce mouvement social n'est rien d'autre qu'une couverture pour une action de plus grande envergure. Rassembler l'ensemble des rats qui peuplent les sous-sols afin de les déverser en masse dans le stade de la ville, l'Arena Corinthians, lors de la cérémonie d'ouverture du mondial. Comment tuer les rats ? En réalité, cette question m'est venue en lisant un article de Jean Nau intitulé « Pourquoi le Front National ? Le parti catastrophe ?» Article entièrement illustré avec des photos de rats. Il se trouve que les rats ont des réactions très spécifiques lors d'une crise. Esselé et dans l'incapacité de fuir une menace, le rat voit ainsi sa santé décliner de manière fulgurante. Sa tension artérielle explose, il somatise. Mais si d'autres rats sont présents, alors il devient agressif et attaque ses congénères. J'en conclus hâtivement que le rat est à la fois très social, un rat n'allant jamais seul, et très antisocial. Sa violence peut très vite se retourner contre la communauté. De là, je réalise que puisqu'il se déplace en meute comme les fourmis, le rat, ou plutôt la colonie qu'il forme avec les autres rats, est une excellente métaphore du réseau. Une meute de rats est un rhizome. On peut essayer de briser la meute, elle se reconstitue aussitôt, comme l'internet lui-même lorsqu'on l'on cherche à couper la connexion quelque part. Parce qu'on n'en a jamais fini avec ces bestioles, la question est donc, je le comprends, brûlante. Comment tuer les rats ? Recherche. Manifestement, la requête la plus formulée est South Park. Comment tuer les rats dans South Park arrive en tête. Une histoire de niveau difficile à passer dans un jeu vidéo. Devant, comment tuer les rats naturellement, dans un poulailler, dans une maison, etc. Je clique un peu au pif et je me retrouve sur un site suisse très pédago, désinfestation.ch, qui parle aussi de cafards et de fouines. J'arrive enfin aux techniques de dératisation du dératiseur. La lutte des hommes contre les rats est une longue histoire, commence le texte. Voilà. J'ai la réponse à ma question. La méthode privilégiée actuellement pour tuer les rats consiste à leur faire avaler des anticoagulants. C'est pas sympa pour le rat, mais c'est très écolo, paraît-il, et en plus, ça permet d'éviter les stratégies de contournement de la meute, car le rat est malin et capable d'éviter les pièges qu'on lui tend. Cependant, poursuit le site, une disparition totale des rats n'est pas à souhaiter. Ne serait-ce que pour leur rôle d'éboueur dans les égouts. C'est un peu, pour reprendre la comparaison avec le réseau, comme les virus. Des milliers, 15 000 seraient découverts chaque jour rien que sur Android, le système d'exploitation mobile de Google. Mais chercher à les éradiquer totalement n'est pas souhaitable. Cela provoquerait une perturbation bien plus importante de l'écosystème. Cela reviendrait à tuer tout renouvellement et toute progression. Et puis, que deviendraient les services secrets modernes face à des systèmes informatiques sans faille, hein ? Pas grand-chose. Les services ont besoin des failles pour combattre les failles. Combattre l'infection, qu'il s'agisse de rats ou de virus, c'est donc toujours en même temps souhaiter l'infection possible. À ce stade, je ne sais plus très bien ce que vise cette navigation pleine de rats morts, sinon à tromper l'ennui.
Fantastic atmosphere at the stadium today. It's an important match for these two teams. Well, it's gone. You can go on. The captains facing off against each other. A lot of history there. Your bones are just beating like drums at your funeral song. And your heart has been gone too long.
Merci, Thibaut. Nous aussi, on n'a pas forcément très très bien compris où mener cette navigation, mais les auditeurs ou auditrices qui, eux, ont compris, peut-être pourront nous envoyer une exégèse de votre chronique. On écoute Hot Chip, groupe anglais formé à Londres au début des années 2000. Le morceau s'intitule « Don't deny your heart »,« Ne renie pas ton cœur ». Un morceau qui vaut aussi pour son clip où on voit les membres du groupe s'affronter dans une partie de jeu vidéo et on voit s'affronter les deux clubs, Manchester City d'un côté et Manchester United de l'autre. Mais les joueurs finissent, au lieu de se frapper, par s'embrasser, se rouler les uns sur les autres, les uns dans les autres, et ça se termine comme une grande partouze. Vous écoutez France Culture, Place de la Toile, le magazine hebdomadaire des cultures numériques où nous inscrivons aujourd'hui dans le week-end que France Culture consacre au foot, au football et au Brésil à quelques jours de l'ouverture de la Coupe du Monde qui se déroule donc au Brésil. Et nous, nous parlons dans Place de la Toile de foot et de jeux vidéo avec trois invités, Daniel Foucard, Philippe Gargoff et François Bigot. Alors je voudrais en ouverture de cette deuxième partie vous soumettre une hypothèse dont je crois on en avait déjà un petit peu parlé à cette antenne, Philippe Gargoff, quand vous étiez venu discuter de foot et de statistiques. Il y a quelques années, un article du magazine américain Wired émettait une hypothèse qui était intéressante. Le journaliste constatait, en regardant un match de foot américain à la télé, que l'un des joueurs utilisait une tactique qu'il n'avait jamais vue sur le terrain. Et le journaliste se disait, tiens, c'est drôle, cette tactique, je n'ai vu qu'en jeu vidéo. Et donc, il décroche son téléphone, réussit à joindre le joueur et lui soumet son hypothèse. Et le joueur lui dit, bah oui, effectivement, moi, je suis un très, très grand joueur de jeux vidéo. Et il se lance dans une grande enquête, comme seul Wired de les magazines américains peuvent le faire. Il va avoir plein d'entraîneurs de foot américains, plein de joueurs. Et il s'aperçoit qu'il y a une expression du jeu vidéo sur le terrain qui joue à plusieurs niveaux. Et par exemple, à celui des quarterbacks qui sont dans le foot américain un poste central puisque c'est un poste de tacticien, celui qui lance le ballon à la main, et où les entraîneurs expliquent à ce journaliste que bah, les nouveaux quarterbacks, avant, dans l'ancien temps, les quarterbacks on les prenait jeunes en sortie d'université, mais avant de les mettre sur le terrain il fallait 3-4 ans de formation au schéma tactique avant qu'ils soient opérationnels tactiquement. Bon. Donc ils perdaient un peu en physique mais gagnaient en tactique bon, pendant ces années-là, et les entraîneurs expliquant à ce journaliste que aujourd'hui les quarterbacks qui arrivent en sortie d'université, ils ont tellement joué aux jeux vidéo, qu'ils ont amassé un nombre incroyable de tactiques dans leur tête et que donc on peut directement les mettre sur le terrain parce qu'ils sont physiquement, donc ils sont bien meilleurs que leurs prédécesseurs parce qu'ils sont physiquement au top, hein, ils ont l'âge et en même temps ils ont amassé des schémas tactiques de manière incroyable. Alors ça c'est valable pour le foot américain qui est un sport peut-être plus opérationnel de ce point de vue-là, qui est très tactique, donc du coup des phases avec des phases arrêtées. Mais est-ce que je me disais, l'hypothèse qu'on se faisait était de savoir s'il y avait de la même manière pour le foot, on pouvait observer une entrée du jeu vidéo dans le foot, mais qui est autre chose que simplement l'expression mettre un but PlayStation, parce que je crois que ça se dit ça dans le réel, non, pour Sabigo, d'un joueur qui a mis un but PlayStation. Bon.
Ouais, ça se dit, ouais.
Ça désigne quoi, par exemple? C'est quoi un but PlayStation?
Ça désigne le but de Zlatan Ibrahimovic contre l'Angleterre avec la Suède.
C'est-à-dire
c'est une retournée acrobatique à 30 mètres qui va dans le but. Bon, ouais, ça se dit.
Ça se dit. Mais alors, est-ce que vous croyez, alors est-ce qu'on peut essayer de réfléchir à cette hypothèse qui aurait, à force de la pratique du jeu vidéo, sur tous les terrains du monde, pas simplement sur le terrain professionnel, une sorte de transfert comme ça, où on pourrait voir les signes, selon vous, hein, je ne sais pas, de ce transfert-là? Est-ce que vous avez des hypothèses, Philippe Gargoff?
Il y a forcément des allers-retours qui se créent, qui peuvent être de plusieurs niveaux. Là où on peut voir un peu, essayer d'approfondir l'hypothèse, c'est en regardant à quel niveau ça pourrait influer. Ouais. Il y a d'abord dans le rapport au corps. Et ça, c'est sûr que quand on va regarder des joueurs dans un jeu vidéo et qu'on va les pratiquer, les avoir en main à longueur de journée, on va avoir envie peut-être de les imiter. Donc, il y a une forme de mimétisme qui existe. Il y a le rapport du spectateur et qui va être d'avoir une culture footballistique qui va s'approfondir, par exemple sur le plan tactique, de mieux comprendre pourquoi est-ce qu'un joueur... quand il va monter, il peut pas. Il doit être compensé s'il monte trop haut ou bien il doit se placer à tel endroit et pas à tel endroit. Et en tant que spectateur, on va forcément avoir une meilleure compréhension à force de pratiquer. Forcément, on regarde différemment l'objet.
Ça, ouais.
À titre personnel, j'ai appris le foot quasiment que à travers le jeu vidéo.
Ce que vous appliquez comme analyste tactique, parce que ça c'est vos grandes spécialités, de faire des grandes analyses tactiques hyper fouillées sur le foot réel, le foot des équipes réelles, vous pensez que tout ça vous l'avez appris en tant que joueur de jeu vidéo?
C'est pas que je le pense, c'est que je le sais. Je regardais quasiment pas de foot il y a encore en 2007-2008 et j'ai quasiment tout appris. Mon intérêt du foot est venu par le jeu vidéo, d'abord PES puis Football Manager. Et j'ai surtout appris un langage, une compréhension du terrain, des choses qu'on ne peut connaître que parce que ça a été transmis, soit par exemple quand on a joué en club, par un coach, ou par des partenaires, peut-être par un parent, soit en lisant et en essayant de comprendre ce qu'on pourrait appeler le code secret du football. Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi le joueur va faire une passe à tel endroit et l'autre va courir à tel endroit?
D'accord.
C'est des choses invisibles qu'on ne peut pas comprendre comme ça, à mon avis. Il faut les avoir pratiquées. Et moi, il se trouve que je les ai pratiqués à travers le jeu vidéo et c'est comme ça que j'en suis arrivé à m'intéresser à ce sport. Mais après, c'est pas le seul média, mais c'est un moyen d'y arriver qui me semble tout à fait légitime.
François Bigot, que vous diriez quoi? Vous qui êtes joueur aussi sur le terrain, est-ce que vous sentez parfois des rapports? Par exemple, est-ce que vous êtes le même joueur en jeu vidéo que celui que vous êtes sur le terrain? Est-ce que vous êtes aussi un attaquant, un peu pivot?
Non, à la base, je l'étais. Par contre, là, le vrai football, le foot sur herbe, Avec l'âge, effectivement, on descend. C'est ça. Donc, je l'étais au début attaquant. Là, je suis défenseur central maintenant.
Ah,
donc,
c'est ça. C'est bientôt fini.
C'est bientôt fini. Ouais. J'ai mal au dos et voilà. Ouais. Non, je pense pas qu'il y ait eu. Enfin, moi, vu que j'ai commencé par le foot sur herbe, j'ai pas vraiment été influencé par les jeux vidéo dans ma pratique. Non, là-dessus, il y a pas de. Par contre, j'ai lu une interview récente. Je me demande, c'est pas d'hier, de Blaise Matuidi qui disait que le but qu'il avait marqué, le joueur du PSG, le but qu'il avait marqué un peu comme son collègue Ibra sur une reprise de volée, il l'avait un peu tiré de FIFA.
Ah oui.
Il l'a dit. Donc, je me suis dit que ça.
Mais c'est passionnant. C'est que en fait, le fait même de le tenter, parce qu'évidemment, c'est pas la réussite. Mm. Le fait même de le tenter, c'est de l'avoir tellement effectué en jeu vidéo que tout à coup, on estime que ça peut être reproductible dans le réel.
Voilà, c'est une source d'inspiration. Ça, c'est, je pense que ça l'est.
Daniel Foucault.
Alors, oui, moi je trouve qu'il y a effectivement. Il se trouve que je joue moi aussi au foot tous les samedis dans un petit club informel qui s'appelle le football Anster. Voilà. Mmh. Et oui, effectivement, ce qui est d'important avec les jeux vidéo, c'est que ça gère l'ego. C'est surtout ça qui est important. Lego, E-E-G-O. Hein,
oui, oui,
donc, et ça prend en compte le fait que vous êtes à la fois joueur, vous êtes à la fois entraîneur. Vous pilotez un petit peu le match et quand une équipe adverse vous met 3-0 et que vous êtes furieux, vous pouvez appuyer sur reset et là c'est la fin du cauchemar. Donc vous arrêtez tout. Donc finalement vous êtes tout le temps satisfait, vous mettez des buts de 30 mètres, c'est parfait. Quand vous arrivez sur le terrain et là tout à coup on est un autre rapport aux autres, et ben vous pensez juste à être utile.
Ah, voilà. D'accord.
Le jeu vidéo, lui, il a pris en compte le personnage complexe qu'on était. Le foot réel va prendre en compte la nécessité d'être utile à l'équipe.
Ah oui, donc vous avez à la fois une réduction, disons, des ambitions, on pourrait dire, et en même temps une sorte de collectivisation, c'est ça ? Enfin, un souci du collectif.
Moi, c'est ce que j'ai en tout cas.
Ah oui, c'est intéressant ça.
Moi, ouais.
Oui, mais alors en même temps, François Bigot, quand vous jouez collectivement sur console, alors là, du coup, il y a...
Là, c'est clairement tout le contraire. C'est comme quand on rentre sur un terrain. On a le souci du collectif. Là. Il ne faut pas mettre le coéquipier dans la panade parce qu'on est parti à l'autre bout du terrain alors qu'on est défenseur. Ouais. Il faut faire attention. Si on ne fait que de perdre la balle, on se sent un peu stressé. On ne veut pas faire mal pour les autres coéquipiers.
Ah ouais. Le stress, par exemple, c'est...
Ah oui, en compétition, comme toute compétition, il y a toujours un peu de stress. Mais...
Philippe Lagoff, vous voulez ajouter quelque chose ?
Ce qui était très drôle, c'est que dans les trois souvenirs qu'on a évoqués en tout début d'émission, on a eu les trois grands cas de jeu qu'on peut avoir, c'est-à-dire le jeu en solo contre un ordinateur, où là, on est vraiment dans l'expression de on lutte contre un ordinateur, donc on est dans le plaisir pur ou dans la compétition avec soi-même uniquement. On a l'exemple de gens qui jouent à 11 contre 11, en réseau, donc à la fois en ligne et en même temps dans un contexte de multijoueur. Et puis, à titre personnel, moi, c'est contre mon meilleur ami dans la même pièce. Je déteste jouer en ligne, par exemple. Et là, on se place sur un autre rapport qui n'est pas non plus l'ego, comme ça a été évoqué, mais même la compétition psychologique qu'on peut avoir avec son meilleur ami, parce que c'est ça, finalement. On essaye de le dominer, on essaye de le chambrer.
Bien sûr. Ouais.
Et c'est ce qui fait le plaisir du truc. Ouais. Alors que c'est vrai que quand on rentre sur un terrain, même en niveau district, même en niveau amateur avec ses amis, l'important, c'est d'être utile. Et ça, il n'y a qu'en 11 contre 11 qu'on l'observe, mais ce n'est pas la majorité
des
usages.
Bien sûr.
Mais par contre, c'est peut-être le plus intéressant parce que c'est là où le foot jeu vidéo se rapproche le plus du foot réel.
Et je me posais la question pour continuer cette histoire de possibilité de transfert du jeu dans le jeu physique. Est-ce que par exemple, vous avez entendu ou lu des cas d'entraîneurs qui auraient... parce que comme le nombre de données qui est amassé par les jeux vidéo, qu'ils soient des jeux de simulation ou des jeux comme Football Manager, des jeux de management, donc le nombre de données, il est absolument monumental. Quand vous étiez venu nous en parler, Philippe Bergoff, vous racontiez que les gens qui fabriquent Football Manager, ils ont plus de données à leur disposition que ceux-mêmes qui fournissent aux joueurs et que du coup, ils vendent leur set de données à des clubs pour que les clubs recrutent, etc. Enfin, c'est quelque chose de complètement incroyable. Et donc on se dit c'est une mine, par exemple, pour les entraîneurs, c'est-à-dire pour que faire jouer leurs joueurs face au défenseur du jeu, mais qui est en fait tellement bien paramétré, qui ressemble au vrai défenseur. Est-ce qu'on voit ce type de choses utilisées ? Est-ce qu'on peut utiliser le jeu à des fins de formation ? Vous en avez entendu parler les uns les autres de ça ? Pas du tout ?
Moi non, en tout cas sur FIFA non, mais parce que je pense que la difficulté c'est qu'il y a quelqu'un derrière la manette, donc même si le joueur il est bien paramétré, ça changera.
Par contre, ce qu'on sait, c'est que beaucoup de clubs vont mettre à disposition des consoles de jeux dans les espaces de loisirs parce qu'ils savent très bien que les gens vont continuer à jouer. Et s'ils jouent à FIFA, tant mieux, parce que ça leur approfondit juste un peu leur imaginaire de foot. Maintenant, ça peut être bien aussi de décompresser et ça serait bien aussi de les pousser à jouer à d'autres jeux que du foot. Donc ils évitent d'être
la
d'être
belote là-dedans. Comme ils faisaient avant.
Mais là où ça pourrait se faire, on pourrait avoir des simulations comme l'armée va le faire, ou comme pour un permis de conduire. On pourrait, sauf qu'il faudrait derrière programmer le jeu par rapport à ses intentions. Et c'est là où toute la limite entre le jeu vidéo et le réel se joue. C'est quelle programmation on met derrière. Parce que c'est ça, un jeu, on programme un gameplay, on programme une physique de balle, on programme le mental des joueurs. Un club pourrait le faire, mais il faudrait qu'il programme lui-même le jeu. Parce que s'il prend aujourd'hui un FIFA, il ne pourra rien en faire.
Alors, est-ce que... Pardon, vas-y,
Juste, il y a aussi, il a quand même une petite fonction pédagogique, le jeu. En termes de formation, c'est-à-dire par exemple si on parle d'arbitrage, il y a aucune discussion d'arbitrage contestée dans les jeux.
Alors, si donc, je peux poser la question
à ne pas contester l'arbitre.
Ça, c'est marrant parce que justement avec la nouvelle console, la Xbox One, ils ont avec la Kinect, donc ce qui capte les paroles et puis les mouvements. Si on critique l'arbitrage, eh ben on est sanctionné.
Non, c'est pas vrai. Donc, ils ont intégré la critique de l'arbitrage, c'est génial.
Donc une critique de l'arbitrage et il y a faute pour, enfin, on se prend un carton.
Voilà. Et donc, vous auriez pas envie de, on peut jouer arbitre ou pas sur FIFA par exemple?
Non.
Personne n'a pensé à faire jouer là parce que ce serait intéressant. Du coup, on pourrait l'acheter. Ouais.
Mais ça renvoie à une question qu'on a eue tout à l'heure, qui était les accidents. Par exemple, moi, j'ai jamais eu connaissance de hors-jeu, de faux hors-jeu, enfin de hors-jeu sifflé alors qu'il n'y avait pas hors-jeu, ou inversement.
Il fait jamais d'erreur, l'arbitre de FIFA ou de PES.
Par contre, dans PES, il y avait un arbitre connu qui était baptisé l'arbitre chinois, qui mettait toujours des cartons rouges quand il fallait un carton jaune, et toujours des cartons qui étaient très sévères. Et c'est devenu une légende, parce que quand on lançait le jeu et qu'on voyait que c'était lui, on savait qu'il était programmé pour être très sévère. Donc, on faisait attention aux fautes qu'on faisait.
Et pourquoi on l'appelait l'arbitre chinois?
Parce qu'il était chinois.
Évidemment, aucun racisme.
C'est un peu dramatique, mais et si vous tapez arbitre chinois, il y a des recueils de témoignages. Si vous allez sur jeuxvideo.com, des gens qui pestent contre cet arbitre parce que...
Alors, avant d'entendre Nicolas pour quelques petites questions supplémentaires, on sait qu'il y a tout un courant du jeu vidéo indépendant, hors des grandes machines que sont ceux qui fabriquent PES, donc qui sont les Japonais, c'est Konami, c'est ça. Et puis eSports, donc les Américains, peut-être avec des filiales anglaises qui fabriquent FIFA. Il y a donc dans tout le jeu, il y a du jeu indépendant fabriqué par des petits des start-up ou des petites sociétés de jeux indépendants, voire parfois du jeu indépendant politisé, très politisé dans certains cas. Est-ce qu'on voit, on a vu en foot, des gens comme ça qui ont essayé de fabriquer des jeux de foot où ce soit autre chose que justement ce dont on parle depuis le début, à savoir la simulation, le réalisme, qui soit visé? C'est-à-dire, ou alors un aspect très particulier du foot. Parce qu'on pourrait imaginer que ce soit, je ne sais pas, juste la frappe et qu'on n'ait pas de corps, par exemple, ou alors que ce soit au contraire, je ne sais pas, que la célébration, ou que j'en sais rien. Je m'en imaginais mille trucs. Mais est-ce qu'on a vu apparaître des choses? Est-ce que vous avez vu des choses comme ça très bizarres, intéressantes, François Bigot?
Des jeux de coups francs, de tirs de coups francs. Il y a des applications, ça, il y en a à l'appel.
J'ai vu les applications avec le doigt, par exemple. D'accord.
Ça en fait partie.
Philippe Bergoff.
J'avais essayé de faire un petit recueil de jeux de sport qui avaient des univers un peu alternatifs. Il n'y en a pas eu tant que ça. Il y a eu pas mal de choses autour du football du futur et qui était un peu à la rollerball, donc un football très violent. Et donc, c'était plus du football, c'était plus un jeu de combat avec un univers. Il y a les Mario foot qui sont très orientés forcément arcade au sens complètement avec des coups spéciaux, des boules de feu et des carapaces. Le foot, c'est jamais beaucoup prêté à ce genre de jeu, à la différence par exemple du foot américain où ça existe en version Warhammer, donc figurine de Heroic Fantasy, avec des orques, etc. Le basket, il y a eu des Shaq-Fu et des jeux de basket street. Si comme alternatif, on a le football street, c'est-à-dire avec des plus petites équipes, des plus petits terrains, et puis une place de la faute un peu plus... il y a un peu plus de violence, on va dire.
Ah oui, d'accord, plus lâche.
Et non, j'avais un dernier exemple que j'ai vu tout récemment, qui est en fait une application sur laquelle... alors, ça va être un peu dur à expliquer, mais grosso modo...
Vous avez 30 secondes.
Il faut deviner, en gros, comment a été marqué un but.
Reconstruire c'est beau, ça.
C'est pas mal.
Vous savez qu'il y avait un très vieux jeu comme ça sur les journaux, où on vous disait de placer la balle. Vous vous souvenez ça? C'était un jeu où on pouvait gagner de l'argent en trouvant le bon lieu où était la balle. Donc, il y avait une photo sans ballon, et on disait, où est le ballon? En fait, c'est ce qui veut dire qu'il fallait reconstituer la possibilité du trajet. Donc, en fait, c'est ça, mes versions.
Là, ça ressemble un peu au problème d'échec qu'on a dans les journaux. Enfin, on a un ami au Cahier du Foot qui nous parlait de ça. C'est comment est-ce qu'on va... On sait qu'il va y avoir but, on connaît la position des joueurs. joueur et il faut juste essayer de retracer les 4-5 passes qui l'ont mené.
Ah ouais, ça c'est beau, c'est beau, la déconstruction, de, la reconstruction de l'action. Bon, bah, tout de suite, complément d'enquête de Colasibo.
Attendez un instant, j'en ai pour une seconde. Il y a une question que je voudrais vous poser. Oh, c'est pas que ce soit très important.
Alors, Cola.
Oui, on a dit au début que les deux éditeurs de jeux, principalement, étaient Konami, donc le japonais, et Electronic Arts, l'américain. Quelles sont les équipes nationales championnes de jeux vidéo ?
François Bigot.
Bon, je sais qu'au niveau les équipes nationales championnes de jeux vidéo, c'est-à-dire les meilleures à jouer ou...
Effectivement, non, mais parce qu'il y a une géopolitique du sport. Notamment...
Ah, est-ce qu'il y a une géopolitique du l'e-sport, c'est ça?
Et est-ce qu'il y a une géopolitique de l'e-sport? Est-ce que autant les Japonais et les Américains ne sont pas très bons en football pratiqué, est-ce qu'ils sont meilleurs dans le sport qu'ils ont créé eux-mêmes, à savoir...
Non, là-dessus, ils ont été, je trouve qu'ils ont été assez sport. Les Brésiliens restent les meilleurs, là, il n'y a pas de comparaison possible. Ah, sur le FIFA. Là. Ah non, mais vous parlez de l'équipe des statistiques, hein, vous voulez parler.
Non, je parle des joueurs sur console.
Non, on a des Allemands qui étaient très forts.
Ah, oui.
Et on a un Français qui est exceptionnel, c'est Bruce Gramec, donc le surnommé la machine, qui perd pas beaucoup de.
Donc le champion de champion du monde de sport
de FIFA,
jeux vidéo FIFA, c'est un Français.
Voilà, exactement.
Bah, au moins.
Et je l'ai vu jouer dans un reportage qui était passé sur Game One à la Coupe du Monde à Dubaï, je crois. Et c'est vrai qu'au niveau de sa manière de jouer et de sa concentration, il est assez exceptionnel. Et par contre, il a un jeu que je trouve très austère, mais...
Très direct.
Ah ouais ?
Ouais.
Avec le Real Madrid.
Avec... D'accord. Cola.
Quelle est la place des femmes dans les sports de console, et notamment... Parce qu'a priori, il n'y a pas de différence physiologique qui interdirait à ce que les femmes occupent une place dans vos formations, François Bigot. Donc, est-ce que vous avez des femmes à certains postes ?
Dans mon équipe, je n'ai pas de femmes. Ce n'est pas qu'on n'en accepte pas, hein, mais c'est que sur les sites où on peut recruter des joueurs, pas de femmes.
Voir, on imagine très très bien le dispositif qui consiste à avoir tous ces hommes qui sont devant leur ordinateur tranquillement pendant, à faire leur partie au jeu en ligne pendant que les femmes sont dans le reste de la maison en train de s'occuper des enfants, repasser, préparer le dîner. Tout ça est très beau.
C'est un peu réducteur quand même.
Non, je ne dis pas que je le désire, je dis que je décris un état du réel, ça va.
Il y a eu des réflexions, je crois que c'était pour FIFA, d'intégrer les fédérations féminines. En gros, de modéliser les joueuses. En France, on a en plus la chance d'avoir une fédération avec des clubs très importants. En France-Allemagne, on a Lyon, on a PSG, on a Juvisy qui est très bon. En Coupe d'Europe, on a beaucoup de victoires. Et donc, il y avait eu cette question qui avait été posée, qui aurait permis d'intégrer juste le football féminin dans un jeu de foot.
Et
bah, le problème, c'est que c'est très cher, puisqu'il faut quand même faire un recueil de plein de données physiques, physiologiques, d'essayer de suivre les joueuses.
Et ça serait très beau des hommes qui joueraient des femmes. Ça serait
À titre personnel, j'aimerais beaucoup, parce qu'en plus, le jeu féminin, au niveau physique, au niveau de la physique du jeu, c'est assez intéressant. Ouais. Mais ça ne s'est pas fait, parce que ça coûtait trop cher.
Bien sûr. Cola.
Oui, Daniel Foucard, est-ce qu'il existe de la poésie également dans le sport sur console? Parce que le sport sur console, c'est un sport qui est programmable, dont on peut définir à l'avance et anticiper tous les mouvements. Et où se recrée une poésie du numérique?
Alors, moi, je la mettrais, cette poésie, au niveau du fait que... puisque donc, je suis écrivain, et à chaque fois que j'écris mes livres, je me comporte avec trois couches de réel. C'est-à-dire le réel proprement dit, le réel onirique, c'est-à-dire le rêve, et le virtuel, qui est à mon avis la troisième couche qui est arrivée il y a de ça à peu près 10-20 ans. Et donc à chaque fois que j'écris quelque chose, il y a toujours le problème du virtuel qui est adopté et qui est présent. C'est plutôt là que se trouve la poésie. C'est-à-dire, je me demande parfois, je suis pris de vertige quand je joue à un jeu vidéo, parce que je me dis, où suis-je quoi? Où suis-je?
Dans quelle couche je suis?
Oui, dans à quel niveau? C'est-à-dire, je suis en même temps, je commence à être super énervé, excité, et puis en même temps, je comprends bien que je peux tout maîtriser ou à peu près. Ça influe sur ce que j'écris.
Est-ce que parfois vous avez l'impression, quand vous faites sur FIFA, sur PES, par exemple, vous jouez à PES, vous, une sorte de geste comme ça incroyable, vous avez l'impression de l'avoir fait, votre corps, est-ce qu'il emporte presque la mémoire d'un geste qu'il n'a pas effectué?
Ça, c'est difficile à dire que ça se répercute sur le corps, ça, je ne sais pas encore. Ça, on verra peut-être qu'on aura un petit peu les tenues intégrales pour jouer au foot, mais pour le moment, c'est pas si sûr. Je vois surtout que on se trouve beau quoi, quand on joue aux jeux vidéo. Et on fait un super but, oh, je suis splendide, c'est tout.
Ah oui,
voilà, c'est le seul truc, la seule répercussion, elle est là, je pense. Ouais.
Bon, merci beaucoup à tous les trois d'être venus discuter de foot et de jeux vidéo et d'avoir essayé de nous faire partager ce que sont ces sensations du foot et du jeu vidéo. Toutes vos références sont sur la page de Place de la Toile, où vous pouvez aussi télécharger cette émission pendant un an et l'écouter pendant trois. Alors, juste une annonce, la semaine prochaine, samedi 14 juin, se déroulera au CNAM, donc aux Arts et Métiers, le PDF, c'est Personal Democracy Forum France. Donc c'est le grand rendez-vous des usages politiques et sociaux du numérique. La question, ce sera tous acteurs de la société numérique, notamment autour de la question de l'inclusion, de l'exclusion. Toutes les informations sont sur le site du Personal Democracy Forum, donc personaldemocratie.fr, et sur le hashtag PDF France sur Twitter. Nous, la semaine prochaine, on reprendra nos entretiens américains avec Claire Richard, mais cette fois-ci elle sera sur notre plateau pour nous parler design et nous présenter trois entretiens qu'elle a rapportés de New York autour de cette question donc du design. Ce sera samedi prochain 18h10 dans Place de la Toile. Place de la Toile, Thibaut Henton, Xavier Delaporte. Cette émission a été préparée par notre stagiaire Cola Zibo. À la technique, c'était Jean-Guilain Meige. Réalisation Vanessa Nadjar. Il est 19h, vous écoutez France Culture. Tout de suite, Elisabeth Chungi et son magazine de musique sur écoute. Bonne soirée, bonne semaine.